que tu viennes. Ne viens pas à notre secours, Seigneur, pour l'intelligence spirituelle. Nous allons repartir comme nous sommes venus, sans rien recevoir de toi. Mais ce n'est pas le but, Seigneur. Le but, c'est de recevoir quelque chose de toi. Quelque chose qui nous fait mieux te connaître. Quelque chose qui va réjouir notre vie. Quelque chose qui va nous permettre d'entrer dans une relation plus forte et plus vivante avec toi, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle chaque dimanche, nous te demandons de nous accorder ton esprit, de nous remplir de ton esprit. Parce que ce n'est pas avec l'intelligence humaine que nous pouvons comprendre en profondeur la parole de Dieu. C'est uniquement par l'action de ton esprit en nous, Seigneur. Alors, remplis-nous de ton esprit. Et merci, Seigneur, de ce que tu veux faire. Amen. Aujourd'hui, je vais vous lire donc un passage beaucoup plus long que ce que j'ai l'habitude de faire. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, et au à partir du premier verset jusqu'au verset 24. On ne peut pas trop dissocier donc, le texte que je vais vous lire maintenant. C'est la raison pour laquelle il est plus long que d'habitude. Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi, elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi, par le corps du Christ, pour appartenir à un autre, c'est-à-dire à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, des passions, des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le nouveau régime de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre, c'est-à-dire de la loi. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras pas ». Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais, mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie en moi, et moi, je suis mort. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort, car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Ainsi, la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Certes non. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que, par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel, vendu au péché, car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je dois reconnaître que ce que je viens de vous lire n'est pas un texte facile à comprendre. Ou alors vous êtes hyper doué. C'est un texte qui a vraiment besoin d'être médité. Mais c'est un texte d'une profondeur incroyable. Et moi, souvent dans ma prière, je dis merci encore à Dieu. Seigneur, merci de nous avoir donné l'apôtre Paul qui nous fait comprendre des choses incroyables. Alors, le mois dernier, dans un passage de Romains 6, nous avions vu que Paul parle de la libération. La libération de quoi? La libération de l'esclavage du péché. Cette libération se produit uniquement parce que Jésus a donné sa vie à la croix et que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Lorsque nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur, bien sûr. Et je relis le passage. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, à partir du verset 3. La délivrance de l'esclavage du péché est une chose importante à comprendre et à vivre, bien sûr, pour chaque croyant. Mais Paul nous parle d'une autre libération dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure. Il veut nous faire comprendre une chose tout aussi importante. Le chrétien est délivré de l'esclavage de la loi. Bien sûr, ces deux libérations sont étroitement liées. Si nous ne sommes pas entièrement affranchis de la loi, nous ne pourrons jamais connaître le plein affranchissement du péché. C'est l'œuvre de Jésus à la croix qui opère en même temps ces deux délivrances. Et c'est uniquement par souci pédagogique que Paul traite ces délivrances l'une après l'autre. Pour commencer, comprenons bien ce qu'implique le mot « grâce » et le mot « loi ». La grâce implique que Dieu fait quelque chose pour moi. Il le sauve, il le pardonne. Et on pourrait ajouter d'autres verbes. Quant à la loi que Dieu a donnée aux hommes, n'oublions pas, elle impliquerait que j'aurais à faire quelque chose pour Dieu, comme par exemple obéir à ses commandements. En effet, Dieu a des exigences de sainteté et de justice que je serais appelé à remplir. Logiquement, c'est ce qu'implique la loi. Or, si la loi implique que Dieu me demande d'accomplir certaines choses, la délivrance de la loi implique qu'il ne me le demande plus. Pourquoi ? Parce que ce qu'il demande d'accomplir, il le pourvoit lui-même. Quand y a-t-il pourvu ? À la croix de Christ. C'est-à-dire au moment où Jésus a été crucifié, au moment où Jésus a donné sa vie pour réconcilier les hommes avec Dieu. On peut légitimement se poser la question, mais pourquoi dois-je être délivré de la loi, puisque c'est Dieu lui-même qui a donné cette loi et qui attend que je l'obéisse. Alors, frères et sœurs, aussi longtemps que l'on n'a pas compris à quoi sert la loi, on se posera toujours cette question et on n'y apportera jamais de réponse convaincante. Alors, à quoi sert-elle, la loi donnée par Dieu? Eh bien, nous avons un début de réponse dans Romains 3. Je cite, « Personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque, et c'est la phrase importante, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Et le texte que je vous ai lu dans Romains 7 dit ça à longueur de texte. Un second verset va dans le même sens, je cite, « La loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. » Romains 5. Dans ces deux versets, nous voyons que la loi a une fonction précise, laquelle elle sert à révéler le péché. Elle sert à révéler notre péché. Paul nous fait faire un pas de plus dans la compréhension de ce qu'est la loi. Je cite, « Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Romains 6. On voit dans ce verset que lorsqu'on veut obéir à la loi pour plaire à Dieu, on se place sous la domination du péché. Pourquoi ? Parce qu'aucun homme n'est capable d'observer toute, en majuscule, toute la loi, toute. On est capable d'observer peut-être un, deux éléments de la loi. Mais celui qui n'observe pas toute la loi, il pêche contre toute la loi. Et que de ce fait, il tombe sous le coup de cette parole, et je cite, « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi pour le mettre en pratique. » Ça, c'est dans Deutéronome 27. Autrement dit, frères et sœurs, la loi ne sert pas à plaire à Dieu. À quoi sert-elle alors? Elle sert à révéler à l'homme qu'il est irrémédiablement pécheur et donc qu'il a besoin d'un sauveur. Il faut donc que l'homme soit délivré de vouloir plaire à Dieu en essayant d'obéir à la loi. Et voici ce que Paul écrit vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Il n'y a pas de main morte, Paul. Hein? Je répète, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Galates 5. Il est important de comprendre que la loi n'est pas en cause. Lorsque Paul nous enseigne que les chrétiens doivent en être libérés, en effet, Paul écrit que la loi, elle est sainte et le commandement saint, juste et bon. Il n'y a rien de mauvais dans la loi, mais il y a quelque chose de résolument mauvais en moi. Les exigences de la loi, elles sont toutes justes, mais la personne qui doit y satisfaire, elle est mauvaise. La difficulté ne vient pas de ce que les exigences de la loi sont injustes, mais du fait que je suis incapable de leur obéir. Dieu me connaît. Il sait que je suis pécheur. Il sait que je suis faible, que je ne peux rien faire par moi-même pour me délivrer du péché. Le malheur, c'est que moi, je ne le sais pas. J'admets que tous les hommes sont pécheurs et que par conséquent, je suis aussi pécheur. Mais je n'imagine pas être un pécheur aussi mauvais que les autres. Il faut que Dieu m'amène à la place où je me vois entièrement faible et impuissant à observer la loi. Et bien que j'en parle, je ne le crois pas encore tout à fait. Et Dieu doit faire quelque chose pour me convaincre de cela. Sans la loi, je n'aurais pas connu la mesure de ma faiblesse. C'est ce que dit Paul lorsqu'il écrit dans Romains 7 « Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Plus nous nous efforçons d'observer la loi, plus notre faiblesse devient manifeste. Dieu savait tout cela, mais nous l'ignorions. Et c'est pourquoi il nous fait traverser les mêmes expériences dont Paul parle. Cet homme de Dieu désirait de toutes ses forces observer la loi, mais il constatait qu'il n'y arrivait pas. Et il finit par s'écrier, comme on l'a vu tout à l'heure, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» N'est-ce pas un peu aussi notre expérience ? Frères et sœurs, je vais affirmer une chose surprenante et paradoxale. Et pourtant, c'est ce que nous dit l'Écriture. En donnant la loi aux hommes, Dieu ne s'attendait pas à ce qu'il l'observe, car il savait pertinemment que les hommes en étaient incapables. Alors, dans quel but Dieu a-t-il voulu cela? Il a voulu cela pour que, constatant le fait que nous sommes incapables d'obéir à la loi, nous prenions enfin conscience, nous soyons convaincus de notre misère extrême et de notre faiblesse. C'est cela le but de la loi. Elle a été notre coach, hein, c'est un mot à la mode maintenant, elle a été notre coach pour nous amener à Christ, afin que lui-même, c'est-à-dire Christ, accomplisse la loi en nous. Et c'est ce qu'écrit Paul en Galates 3:24. La loi a été donnée comme un pédagogue. On ne connaissait pas le mot coach du temps de l'apôtre Paul. La loi a été donnée comme un pédagogue pour nous, pour quoi faire ? Pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Et je souligne, seulement par la foi. Les exigences de la loi sont immenses. Mais la loi n'offre aucun secours pour que nous les accomplissions. Les exigences du Seigneur Jésus sont aussi grandes. Voici un exemple, et il y en a d'autres dans les évangiles. Voici un exemple. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Matthieu 5. Ce que Jésus nous demande, il l'accomplit lui-même en nous. La loi nous donne des ordres, mais elle nous laisse impuissants pour accomplir ses ordres, ses commandements. Christ, lui, nous donne des ordres et des commandements, mais il accomplit lui-même en nous les ordres et les commandements qu'il nous donne. Et ça change tout, ça. Le principe qui gouverne notre délivrance de la loi est exactement le même que celui qui gouverne notre délivrance du péché. Quand je meurs à ma vieille nature, je suis délivré de la tyrannie de mon ancien maître. Qui c'est mon ancien maître ? C'est le péché. Il en est de même à l'égard de la loi. Quand je meurs à ma vieille nature, je suis affranchi de la loi. Alors, comment mourir ? Lorsque Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu m'a associé à la mort de son Fils. Je suis donc mort avec lui. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Voilà ce qu'il dit. Vous êtes mort à l'égard de la loi par le corps de Christ pour appartenir à un autre, c'est-à-dire à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre, c'est-à-dire de la loi. Romains 7. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui change dans le fait d'être délivré de l'esclavage de la loi ? Eh bien, ce qui change, et ça change vraiment tout, c'est que désormais, je ne vais plus rien faire par moi-même pour plaire à Dieu. Je ne vais plus rien faire par moi-même pour plaire à Dieu. La délivrance de la loi ne signifie pas que je serai dispensé d'accomplir la volonté de Dieu. Bien sûr que non. Elle ne signifie pas que je vais vivre sans loi. Elle signifie que je suis libéré d'accomplir cette volonté par moi-même. Pleinement convaincu de mon incapacité à l'accomplir, je cesse tout effort pour plaire à Dieu sur la base de mon vieil homme, de ma vieille nature. Et c'est lorsque je désespère entièrement de moi-même que je mets toute ma confiance en mon Seigneur pour qu'il manifeste en moi, qu'il manifeste quoi en moi? Sa vie de résurrection. Les exigences de Dieu n'ont pas changé. Elles ne changeront jamais. Car, comme le dit l'apôtre Paul, la loi est sainte, juste et bonne. Mais ce n'est pas à moi d'y répondre. Sur son trône de gloire, Dieu est celui qui donne la loi, oui. Mais dans mon cœur, il est celui qui observe la loi qu'il a donnée. C'est lui qui donne les commandements et c'est lui-même qui les accomplit par l'Esprit Saint qui est en moi. Nous avons tous besoin d'arriver au point où nous disons, Seigneur, je suis incapable de faire la moindre chose pour toi. Mais je me confie en toi pour que tu accomplisses tout en moi. Je suis crucifié avec Christ, écrit Paul. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il y en a deux. Ce que je suis incapable d'accomplir par moi-même, c'est Christ qui l'accomplit en moi. Je cite, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car, chose importante, impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en moi, pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en moi, en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Romains 8. Dans ma nouvelle nature en Christ, c'est toi, Seigneur, qui aimes à travers moi. C'est toi, Seigneur, qui pardonnes à travers moi. C'est toi, Seigneur, qui parles à travers moi. C'est toi, Seigneur, qui consoles à travers moi. C'est toi, Seigneur, qui prie à travers moi. C'est toi, Seigneur, qui agis à travers moi. Que d'erreurs ont été commises envers des générations de croyants, de leur avoir enseigné qu'il fallait obéir à la loi de Dieu, avant de s'être assuré qu'ils aient expérimenté l'amour inconditionnel de Dieu. Et avant qu'ils aient compris qu'on ne peut pas obéir à la loi par ses propres forces, que de tourments on leur a occasionné de leur dire qu'il fallait obéir à la loi avant de s'être assuré qu'ils aient compris qu'il fallait que leur vieille nature en Adam soit d'abord crucifiée avec Christ pour ressusciter avec Christ à une vie nouvelle. Et que c'est l'Esprit Saint qui, en eux, allait leur permettre d'observer la loi de Dieu. Au lieu d'être centré sur la relation avec Christ, ses enseignements centrés sur l'obéissance à des pratiques religieuses ont contribué à faire soit des générations de chrétiens religieux satisfaits de leurs œuvres, soit des chrétiens crispés sur leurs efforts pour plaire à Dieu, avec toutes les frustrations et les culpabilités que cela a entraînées. Puisque quoi ? Puisqu'ils voyaient bien que leurs efforts pour obéir à la loi de Dieu étaient vains. Lorsqu'il était sur terre, Jésus n'a rien fait par lui-même. On a du mal à comprendre ça. Pourtant, c'est l'Écriture qui le dit. Je cite ses propres paroles de Jésus. Le Fils, c'est-à-dire lui, et c'est lui qui parle. Le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il doit faire au Père. Jean 5. Eh bien, c'est exactement le même processus pour les chrétiens. Quand Christ est au centre de nos motivations, notre service tire toute son énergie de la vie qui vient de lui. C'est encore Paul qui écrit : ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci Seigneur de nous avoir redit que tu nous libères non seulement de l'esclavage du péché, mais aussi de l'esclavage de la loi. Seigneur, approfondis en nous cette révélation. Seigneur, que disparaissent toutes les paroles d'homme, pour que ne restent dans nos cœurs que les paroles que tu as prononcées. Car seules ces paroles-là sont la vérité et capables de nous faire comprendre ce que tu veux nous dire.